France Inter, franceinter.com.
My name is Spade, Sam Spade. License number 357896, issued for the Police Department of San Francisco. Occupation, private detective, sometimes known as Private Eye. My files in the case of the Maltese Falcon are closed, but I've got the Maltese Falcon. I got it and some dough. My partner got murdered and a very slick chick went up for life. I'll tell you about it. This slick dame comes to see me one day, gives me a song and dance about her sister and a guy called Floyd Thursby. She wants us to get her sister back before her mother and father get in from Hawaii. I put my partner, Miles Archer, on the case. That night, he gets murdered. And so does this guy, Thursby. I go around to the apartment where the dame is living, the one called Bridget O'Shaughnessy. She had something I seemed to go for.
Oh, Mr. Spade, come in.
I have come in.
Oh, yes, so you have.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Je suis sûre que vous l'avez déjà reconnu à la voix. C'était en 1941. Humphrey Bogart incarnait Sam Spade, le mythique privé, créé par Dashiell Hammett. Marie Astor jouait la méchante séductrice au regard d'ange et l'étrange Sidney Greenstreet, le redoutable malfrat, ne reculant devant rien pour s'emparer du faucon maltais. John Huston signait la réalisation. Alors, était-ce un film policier? Pas vraiment, mais un film noir, ça, évidemment. Mais il est vrai qu'à cette époque, les différences ne comptaient guère et surtout que les gentils gagnaient à tous les coups. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins simple. Heureusement, pour nous guider dans nos classifications, on peut toujours compter sur notre insurpassable monsieur cinéma, Patrick Brion, qui 17 ans, et oui, 17 ans déjà après son premier opus consacré au film noir de 39 à 58, publie aujourd'hui la suite de cette indispensable Bible. L'héritage du film noir, publié aux éditions de La Martinière, démarre en 1959 avec un film rarement vu de Robert Wise, Le coup de l'escalier, pour s'achever en 2003 avec le sublissime Mystic River de Clint Eastwood. Séance spéciale ce soir dans l'humeur vagabonde avec Patrick Brion.
Give chance to the madman. Give chance to the madman.
Madeline, let's get together. Groove to the Braca music. Brand new day is coming. Sharp, clear, and bright. Brand new day is coming. Sharp, clear, and bright. Break away, chant. These bonds are from our heart. The weather's prepared for us, lady. Within, in the darkness of our soul, we see the light. Stillness we search, in quietness we pray. In righteousness we shall live. All what we need is love. Give love as much we can.
Give chance, give chance. Break away the chant, break away the chant. Break away the chant, break away. Break away the chant, break away the chant. Break away the chant, break away.
Brand new day is coming. Sharp, clear, and bright. Come together, give chance to the future. Everything we need, everything we want. With love we can make it, with the clarity and strength. Let's keep the harmony in righteousness.
we shall live. All what we need is love. Give love as much we can.
Break away the chain, break away the chain. Break away the chain, break away.
Bonsoir Patrick Brion.
Bonsoir.
Alors entre ce premier opus qui, 17 ans, couvrait les années 39 à 58 et celui-ci qui couvre les années 59 à 03 à 2003, qu'est-ce qui a changé à votre avis dans le film noir ?
D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le film noir a continué à exister comme genre, ce qui n'est pas le cas de deux autres genres qui étaient des genres prestigieux du cinéma américain, c'est-à-dire le western et la comédie musicale, qui ont quasiment disparu. Aujourd'hui, on a droit à un western par semestre. Avant, on avait 6 westerns par semaine dans les années 50. Donc ces deux genres-là ont quasiment disparu. Le film noir, en revanche, a très bien survécu, s'est ressourcé remarquablement, parce qu'en fait, il est ancré, je pense, dans la réalité de la société américaine. Donc il évolue en même temps qu'elle. Il a abordé des thèmes qui n'était pas autrefois le propre du film noir. Et c'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs, pour commencer le livre. Le livre commence en 1959. Le précédent, comme vous le rappeliez, s'arrêtait en 58. Celui-là commence en 59 avec Le coup de l'escalier de Robert Wise, avec Robert Ryan et Harry Belafonte. C'est un vrai film noir. Et c'est un film noir qui, en plus, pose le problème du racisme, puisque les deux principaux protagonistes vont échouer à cause du racisme. Le racisme était un élément qui était peu intervenu dans les films noirs des années 30 ou des années 40. Là, on voit à quel point le film noir va, à partir donc de cette fin des années 50, aborder très franchement d'autres thèmes.
Et pourtant, c'est en 1982, lorsque Wim Wenders tourne Hamet, alors Dashiell Hammett, en hommage justement à l'un des plus grands écrivains de romans noirs. Et quand il tourne ce film, il commence par le mot « fin », ce qui est assez une belle idée de début de film. Et il dit « j'ai commencé comme ça parce que ce genre du film noir est mort ». Alors comment un réalisateur aussi pointu que Wim Wenders a pu se tromper en 82 de cette manière-là ?
Parce qu'il n'est pas américain, il aurait été... En fait, il a fait une espèce... Je ne vais pas dire qu'il a fait un à la manière d'eux, ce qui ne serait pas gentil. Mais il a fait un peu ce que Polanski a fait avec Chinatown. Ce sont des cinéastes européens, viscéralement européens, dans ce que d'ailleurs ça a de mieux. Des gens qui ont représenté parfaitement leur pays, que ce soit Polanski, que ce soit Wim Wenders. Les États-Unis, Hollywood, représentent toujours un mirage, c'est l'endroit vers lequel tous les cinéastes pensent qu'il faut aller un jour pour avoir une espèce d'imprimatur. Pas, et c'est rarement avec de très très grandes réussites. Autrefois, c'était de grandes réussites dans les années 30, naturellement, ou quand Hollywood a récupéré tous les transfuges qui fuyaient l'Allemagne nazie, naturellement. Mais Wim Wenders, je pense que quand on se souvient de ses films, on évoque rarement Hamet. C'est un film d'ailleurs qui était produit par Francis Ford Coppola. Coppola attendait un certain type de film. Wenders voulait faire autre chose. Le film est en fait un compromis intéressant, curieux, parce que nous aimons tous Dashiell Hammett. Et la composition de Frédéric Forrest
était formidable.
Est formidable, en train de taper. Il est très 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 bien. Ce n'est pas une des œuvres majeures de Wenders. Donc que Wenders n'ait pas compris que le film noir se portait très bien n'est peut-être pas tellement étonnant pour quelqu'un qui n'est pas américain.
Mais au fond, Patrick Brion, il est peut-être temps d'y venir. Qu'est-ce que c'est qu'un film noir ? Parce que ce n'est pas forcément un film policier.
c'est très compliqué. Alors ça, c'est chaque fois on se pose des questions. Qu'est-ce qu'est un western? Qu'est-ce qu'est un film noir? C'est un d'abord. Ce n'est pas une biographie de criminel. Ce n'est pas un film sur la mafia. Je n'ai pas mis Le Parrain, par exemple.
Mais comment vous n'avez pas mis Le Parrain, mais il est là, dans ce livre, Godfather?
Non, Le Parrain n'y est pas.
Ah bon?
Le Parrain n'y est pas, non. Mmh. Mais il n'y est pas volontairement. Sans ça, j'aurais d'ailleurs mis Le Parrain 3, qui est vraiment le plus beau. C'est une intrigue criminelle. C'est un monde criminel, et je pense que c'est peut-être la meilleure définition qu'on pourrait donner, c'est celle du cauchemar éveillé. Bon, quand nous rêvons et qu'il nous arrive de faire des cauchemars, par bonheur, on se réveille, alors on est peut-être en sueur, et on se dit ce n'était qu'un mauvais rêve, la vie de tous les jours est beaucoup plus calme. Dans le film noir, les héros vivent ce cauchemar. Et ce cauchemar, il est donc c'est le monde du crime, c'est le monde de la nuit. C'est pas uniquement le monde de la ville, ça peut être la province qui est tout aussi inquiétante que la ville. On le voit dans U-Turn, par exemple, de Oliver Stone, le malheureux Sean Penn a une panne de voiture. Cette petite ville est un antichambre de l'enfer.
Effectivement. Alors, évidemment, quand on parle de film noir, le parrain, parlons du vrai parrain, il reste, évidemment, s'il s'appelle Alfred Hitchcock. C'est d'ailleurs le deuxième film de votre belle encyclopédie, Patrick Brion. C'était avec Anthony Perkins, on s'en souvient. Il jouait à la fois son propre rôle, celui de Norman Bates, et celui de sa mère, la mère qui assassine. On écoute cette scène célèbre où il parle à sa maman.
Now, mother, I'm gonna bring something up.
I am sorry, boy, but you do manage to look ludicrous when you give me orders.
Please, mother.
No, I will not hide in the fruit cellar. You think I'm fruity, huh? I'm staying right here. This is my room, and no one will drag me out of it. Least of all, my big, bold son.
They'll come now, Mother. He came after the girl, and now someone will come after him. Mother, please, it's just for a few days. Just for a few days, so they won't find you.
Just for a few days? In that dark, dank fruit cellar? No! You hid me there once, boy, and you won't do it again. Not ever again. Now get out! I told you to get out, boy.
I'll carry you, Mother.
Norman, what do you think you're doing? Don't you touch me, don't! Norman!
Je suis très, très nerveuse. Toujours le peur. C'est pourquoi je fais le peur dans le film pour les autres. C'est le peur de moi, de toute ma vie. Et cette peur est dans mes films. Le peur de Hitchcock.
Et voilà, la peur de Hitchcock est dans les films d'Hitchcock, Patrick Brion.
Ah, mais ça, il suffit d'entendre quelques notes de Bernard Herrmann, de la musique de Bernard Herrmann de Psychose, pour avoir vraiment peur, parce que c'est un film terrible. Et on comprend d'ailleurs, quand on entend la voix de ce malheureux Tony Perkins, jouant Norman Bates, on comprend qu'il a été très très marqué. Et marqué est un euphémisme, je pense qu'il a plutôt été traumatisé. Il y avait eu, entre Kafka, entre le procès de Wells et Psychose, il y avait de quoi traumatiser l'acteur le plus sain possible.
Mais quand on entend Alfred Hitchcock dire « En fait, je mets mes propres peurs dans les films pour faire peur aux spectateurs », on peut se demander si ce n'est pas la plus grande partie des réalisateurs de films noirs qui mettent leurs obsessions, leurs peurs, comme une sorte de thérapie pour eux. Enfin, quand on pense par exemple à Polanski ou à Brian De Palma, qui ont fait beaucoup, beaucoup de films noirs, c'était vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de leurs propres angoisses.
Mais heureusement qu'ils ont tourné, heureusement qu'ils ont fait des films.
Sinon, ils seraient devenus psychopathes, criminels.
Si Hitchcock n'avait pas fait le nombre de films qu'il a fait, je ne parierais pas sur ce qu'il aurait pu faire.
Déjà qu'il ne se comportait pas très bien avec ses actrices. Il était sadique un peu, ce brave
Je pense
Hitchcock.
Que c'était un homme méchant. Ouais, oui. Méchant. Parce que tout de même, une des pires choses qu'il ait faites, c'est pendant le tournage des Oiseaux, d'envoyer à la fille de Tippi Hedren, à Mélanie, à celle qui allait être Mélanie Griffith, c'est-à-dire l'interprète de Brian De Palma, un petit cercueil avec dedans la tête, enfin la photo de sa mère. C'était pas un homme gentil, c'est pas l'œuvre d'ailleurs, mais enfin c'est pas très grave, il vaut mieux un homme méchant qui fait des films admirables que quelqu'un de très sympathique qui tourne des films sans intérêt.
Alors vous disiez il y a un moment, Patrick Briand, que le film noir poursuivait sa belle vie, au contraire du western et de la comédie musicale, parce qu'il reflète en fait les angoisses, les obsessions des réalisateurs, mais celles aussi de la société américaine. Ce sont des films qui sont toujours influencés par ce qui se passe sur le plan de la politique ou intérieure ou étrangère des Amériques.
Absolument. Et d'ailleurs, le film noir s'est mis à s'attaquer à des thèmes qui n'avaient pas été traités avant, qui sont des thèmes, enfin certains, c'est des thèmes dont on parlait moins souvent, qui étaient le viol, d'autres comme la nécrophilie, d'autres comme ceux qui s'attaquent aux enfants, la pédophilie, ce qu'on voit notamment dans ce dernier film que j'ai choisi, qui était Mystic River, qui est un film
magnifique,
absolument admirable. Ce sont des thèmes éminemment tragiques, éminemment modernes. Je pense qu'ils ont les victimes ont toujours existé. Il y a un moment, on en parlait moins. Le film noir a profité, si on peut dire, de cette espèce de libéralisation qu'il y a eu pour s'attaquer à ces thèmes-là. Et puis c'est vrai que le film noir aussi, ce qui le rend très moderne, et ce qui fait que les films noirs ont toujours un public sérieux, c'est que la permissivité des dernières années, des dernières décennies, a permis de jouer sur la violence, de jouer sur le sexe avec une franchise, une liberté qui n'existait pas avant.
Alors, il y a donc la politique américaine, la situation de la société américaine qui est dans les films. Parfois, il y a certains films qui influent aussi sur la politique américaine. On dit beaucoup que celui qui a tiré un coup de feu contre Ronald Reagan en 81 avait vu 17 fois le film dont nous allons entendre un extrait.
Than you. Fuckers. So are you coming? Fuck. Shit heel. I'm standing here. You make a move. You make a move. It's your move. I'll try it, you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah?
Évidemment, c'était Robert De Niro, mais Robert De Niro, jeune et mince, dans Taxi Driver en 1976. Et Travis Bickle est un ex-marine. Donc là, dans ce film, on sent bien qu'entre la guerre et le retour à la vie civile, il y a quelque chose que le réalisateur a voulu faire remonter à la surface.
Oui, certainement. Scorsese a été l'un des témoins des conséquences tragiques de la guerre du Vietnam, tragique sur place naturellement, mais avec le retour de soldats choqués, qui ont été souvent habitués à tuer, et à tuer dans des conditions extrêmement différentes de celles qu'avaient été les précédentes guerres. En plus, c'est une guerre, bon, toutes les guerres sont des guerres sanglantes, c'était évident, mais il y a des guerres pour lesquelles les soldats, je pense, de la Première Guerre mondiale, ne sont pas allés au front comme sont allés ceux qui allaient au Vietnam. On sait très bien d'ailleurs qu'il y a une partie des gens qui devaient aller combattre, qui ont brûlé leur livret militaire sur le campus des universités ou sont partis au Canada pour pas participer à cette guerre qui était vraiment une sale guerre. Et en effet, le personnage que joue Robert De Niro est quelqu'un qui est complètement choqué par cette guerre. Parce qu'au début, on le voit chauffeur de taxi vivant la nuit. Ensuite, il a les cheveux coupés comme un huron. Il est armé comme un... En effet, comme
un porte-avions.
C'est ça, oui. Et que le film ait eu une influence tragique sur quelqu'un qui était peut-être un peu faible, qui entre le personnage de Robert De Niro et le personnage de Jodie Foster, très prostituée mineure du film, que tout ça lui a un peu tapé sur le citron, peut-être pas totalement.
Alors Patrick Brion, dans les choix que vous faites, parfois, alors vous classez certains films de certains réalisateurs dans les films noirs et pas les autres. Alors par exemple, pourtant John Cassavetes. Bon, Gloria est dans votre liste, évidemment formidable film, film noir, puisqu'il y a des coups de feu, il y a des malfrats. Mais dans ce cas-là, au fond, est-ce que le coup de feu est absolument indispensable? Parce que tous les films de Cassavetes peuvent être classés dans les films noirs. Ce sont des films très durs.
C'est vrai, j'aurais pu mettre le meurtre d'un
bookmaker chinois,
par exemple. Non, ce qui était intéressant, moi ce qui m'a intéressé beaucoup avec Gloria, qui est un film magnifique, d'abord c'est que c'était un personnage féminin. Le film noir, on a souvent l'habitude de voir des types avec des magnums ou des...
Rarement des blondes sur talons aiguilles.
Rarement, enfin, elles sont rarement
enfin,
armées.
Enfin, elles ne sont pas armées.
Il y en a, mais elles ne sont pas armées.
Elles inspirent. Tandis que là, Gloria de Jenna Rolland...
Gloria, c'est rien, c'est une femme qui n'est plus une jeune femme, c'est quelqu'un qui a appartenu à la mafia, qui connaît très bien ce monde-là, et qui va s'embarquer dans une espèce d'aventure invraisemblable avec un petit garçon. Et c'est un vrai film noir, parce que ça pourrait être en effet un cauchemar. Et il y a des films pour lesquels je me suis posé la question. Pour tout vous avouer, il y a des films où je me suis dit, est-ce que ce sont des films noirs ou non? Et il y a quelque chose qui m'a aidé. Je me suis dit, mais si ce n'était pas en couleur, et si c'était en noir et blanc, est-ce que je les mettrais? Et la plupart du temps, je me disais oui. Donc, je les ai mis.
Ah, voilà, Gloria, un film en couleur de 1980, mais qui mériterait d'être en noir et blanc.
What happened? You have a thing? Is that the car? Did it scare you?
Just realized I'm doing the wrong thing. I should be sending you to boarding school.
Okay. Anyway, you're not Spanish like me. You're not my mother, you're not my father, you're not anyone to me, you're not enough for me. Okay, Gloria? So I'm gonna find a family, some new friends, and a girlfriend too.
Okay.
You're a nice girl, Gloria, but you're not for me.
Fine. See that bar across the street? I'm gonna be in there having a drink. You wanna join me? Fine. You don't? You want to run away? That's your problem.
Bye, Chiquita. Bye, little sucker. Bye, little insect. Bye, little fly. Bye, little tiny insect. Bye, sucker.
Incroyable petit John Adames qui n'a jamais plus refait de cinéma, dites-vous, Patrick Brion.
Non, et qui apprenait, je crois, d'après Lulu ne savait pas lire, donc il apprenait phonétiquement,
oralement
son texte, et qui est formidable. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que c'est un film essentiellement moderne. D'ailleurs, on en a fait même un remake déjà. Lumet a fait un remake avec Sharon Stone, mais qui est beaucoup moins intéressant que le film de Cassavetes. C'est une héroïne avec un enfant. Et c'est une héroïne qui tire, c'est un film violent, il y a beaucoup de meurtres, elle n'hésite pas à tirer. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait difficilement vu dans le cinéma noir des années 30 ou des années 40, où il y avait des femmes vénéneuses, oui, naturellement, il y en avait. Mais elles étaient plus perverses, elles ne tiraient pas au revolver.
Vous venez de parler de remake, Patrick Brion, pourquoi est-ce que dans ces films noirs, les remakes sont rarement à la hauteur du premier? Je pense à Cape Fear, par exemple. Les deux versions de Cape Fear, la première est infiniment supérieure à la seconde.
Et pourtant, oui, absolument. Et pourtant, Jack Lee Thompson est un moins bon réalisateur que Scorsese. Mais je crois que c'est... il arrive, c'est rare, il arrive qu'il y ait des remakes qui soient meilleurs que la première version. C'est assez rare. Moi, je pense que quand la première version est remarquable, quand le film est marqué par sa réalisation, son scénario et ses interprètes, c'est une idiotie d'en faire un remake. Alors, commercialement, c'est sans doute pas une idiotie, parce que le nom véhicule déjà une certaine notoriété, donc on a déjà gagné un peu d'audience en prenant un remake. Mais le premier Cape Fear, les nerfs vifs, Mitchum est admirable, il n'y a qu'à voir les photos. Quand on voit Mitchum avec son espèce de Panama, torse nu, il est pire. Enfin, De Niro est pas mal dans le remake, mais Mitchum est encore plus dangereux. Il suinte la violence, il suinte la perversion face à Gregory Peck, qui est beaucoup plus ambigu que le scénario ne pourrait laisser croire à un moment. Hein.
Et puis le premier est en noir et blanc.
Oui.
On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des os et les déesses. Aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
Patrick Brillant, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui changeait beaucoup. C'était aussi le côté un peu démonstratif des films noirs de la période actuelle par rapport à la période d'avant. Par exemple, notamment dès qu'on aborde la question du sexe. Alors, qu'y a-t-il de plus érotique que Humphrey Bogart allumant la cigarette de Lorraine Bacall dans Le Grand Sommeil ? Et aujourd'hui, ça, franchement, ça n'effleure même plus l'esprit des réalisateurs. Il faut absolument tout montrer.
Oui, et l'un des films dans ce domaine-là, qui est certainement l'un des plus durs, c'est Les Chiens de paille de Peckinpah, qui est un film terrifiant, donc qui se passe en Angleterre. Ce petit professeur qui espère avoir la paix pour pouvoir continuer ses recherches, et dont la femme, qui vient du village local en Angleterre, où ils se sont retirés à un moment, retrouve d'anciens camarades de classe qui sont prêts à tout. Oui. Ça, c'est un film particulièrement violent, qui a d'ailleurs beaucoup choqué des ligues féminines qui ont trouvé que... Oui.
Mais par exemple, quand on voit même un couple aussi représentatif de la belle Amérique que dans Eyes Wide Shut, se livrer à des jeux pervers sous la caméra de Kubrick, c'est assez étonnant quand même de se dire que même là, il y a un besoin aussi de... Enfin, la suggestion ne semble plus un des ressorts du film aujourd'hui.
Non, malheureusement, c'est pareil, quand il y avait des films fantastiques, les effets spéciaux étaient faits avec un peu de balsa, quelques toiles peintes. Maintenant, c'est des images de synthèse déchaînées qui mettent 6 mois à être faites. tout est un peu comme ça. Alors c'est vrai que dans le cas d'Eyes Wide Shut de Kubrick, où certains m'ont dit déjà, mais est-ce que c'est un film noir? Alors oui, ça je suis sûr, s'il y a vraiment un film qui est un film noir, c'est bien celui-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y avait des scènes purement allusives, on aurait l'impression qu'on craindrait peut-être que les gens ne comprennent pas. Il faut leur... mettre... Et alors là, dans le cas d'Eyes Wide Shut, qui est un film sur la mort, sur la chair mourante, sur la chair flasque. Au début, on voit une chair éblouissante, c'est Nicole Kidman. Et au fur et à mesure que le film avance, on est dans une chair... Enfin, c'est un film mortifère. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça que le couple s'est séparé, parce que je ne suis pas dans le people, donc je n'y connais rien. Mais qu'ils se soient séparés après Eyes Wide Shut n'est peut-être pas totalement non plus une coïncidence.
Alors il y a ce sexe qui s'étale, et il y a surtout le sang qui s'étale sur l'écran. Évidemment, on pense tout de suite à Quentin Tarantino. Ça a commencé en 92 avec un film qui s'appelle Réservoir Dog. Il y a Harvey Keitel, le formidable Harvey Keitel, qui tire un peu beaucoup.
I don't want to kill anybody. If I gotta get out that door and you're standing in my way, one way or the other, you're getting out of my way.
That's the way I look at it. Choice between doing 10 years, taking out some stupid motherfucker. Ain't no choice at all. But I ain't no madman either. What the fuck was Joe thinking? Can't work with a guy like that. We're awful goddamn lucky he didn't tag us when he shot the place up. I came this close to taking his ass out myself.
I mean, everybody panics. Everybody. Things get tense. It's human nature. You panic. I don't care what your name is. You can't help it. Fuck, man. You panic on the inside. In your head, you know? And you give yourself a couple of seconds. You get a hold of the situation. You deal with it. What you don't do, you start shooting up the place and start killing people.
No, what you're supposed to do is act like a fucking professional. Psychopath ain't a professional. Can't work with a psychopath. Because you don't know what those sick assholes are going to do next. I mean, Jesus Christ, how old do you think that black girl was? 20? Maybe 21?
If that. Hey, look, did you see what happened to anybody else?
Me and Orange jumped in the car, ground floored it. After that, I don't know what we did.
Well, at that point, it was every man for himself, man.
Brother bought a coconut, he bought it for the diamond, sister had another.
Patrick Brion, vous avez noté ce qui était assez facile, qu'il y avait 16 morts dans ce film, des morts très sanglants, mais vous avez noté qu'on y entendait 272 fois le mot « fuck ». Là, on en a entendu une bonne dizaine. Mais vous, oui, les avez comptés, donc?
Non, alors j'avoue, je vais tout vous avouer. Non, je ne les ai pas comptés, mais il y a des gens sur Internet qui passent manifestement leur temps à ça, à compter le nombre. Alors là, ils sont très très occupés, parce que dans tous les films policiers qui sortent aujourd'hui, il y en a en effet...
Ça remplace la virgule.
Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est très frappant aussi. Ça montre l'évolution du film noir, parce que ça, c'était un mot qui était tabou. Il n'était même pas question de le prononcer une fois. Là, aujourd'hui, c'est devenu...
On n'y fait donc plus attention.
On n'y fait plus du tout attention. On trouve ça normal. On
est même étonné. Mais alors là, justement, avec Tarantino, comme avec les frères Cohen, est-ce qu'il n'y a pas justement un retournement du film noir avec cet excès de violence? Ça en devient drôle. C'est-à-dire que, évidemment, on pense à Pulp Fiction, mais est-ce qu'il n'y a pas, du côté de ces talentueux réalisateurs, un petit côté farce comme ça?
Il peut y avoir un côté farce, qui est d'ailleurs assez inquiétant. Je ne vais pas m'ériger en défenseur de la morale publique, mais la mort, quand on tue des gens, quand on est tué, c'est certainement pas drôle. L'espèce de dérision qui risque d'intervenir grâce, en effet, à des films comme ce que vous citiez, enfin, les films de Tarantino, les films de Frère Cohen, quelque chose qui peut finalement être dangereux. On ne doit pas rire, parce qu'on va rire un jour de la mort, un jour on va rire du viol, un jour on va rire de la pédophilie. Tout ça ne sont pas du tout des sujets risibles. Il faut se méfier. Moi, je me méfie du moment où, en effet... Mais c'est vrai que quand on voit, il y a certaines scènes, notamment de Réservoir Dogs, dont on a entendu, où on les voit tous se tenir, enfin, pas par la barbichette, mais par les pistolets, revolvers, les uns sur les autres. C'est presque drôle. Alors, en fait, c'est pas drôle du tout, parce que c'est un film extrêmement violent. C'est un film où on abat d'un coup un type qui est ligoté, qui peut pas bouger. Type meurt un autre meurt dans son sang. Bon, les films de Tarantino sont. Mais cette espèce de côté où on est à la marge de la dérision est en même temps assez dangereux. Parce que, alors, on peut faire des comédies, on peut faire des comédies policières. Ça existe, il y en a eu. Hitchcock en a fait parfois.
Oui, mais c'est justement, ça montre effectivement et l'état de la société et en même temps cette espèce de banalisation du mal, et notamment dans les films noirs qui vont vers les choses qu'on ne pensait même pas voir à l'écran, c'est-à-dire le cannibalisme. Alors, on pense évidemment au Silence des agneaux et ensuite aux fameuses suites avec Hannibal Lecter. Mais il y a eu aussi un film comme ça, très, très dur et très violent et très bien fait d'ailleurs. C'est Seven. On écoute un petit bout.
This was found on the wall behind the refrigerator, the obesity murder scene.
Long is the way and hard that out of hell leads up to light.
It's from Milton. Paradise Lost.
All right, I'm confused.
It means that this is beginning. This was found behind the same refrigerator, written in Greece. There are seven deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. Seven.
Patrick Brion, oui, Sept péchés capitaux, c'est effectivement le film noir. Il se délecte de ces sept péchés capitaux. Là.
Oui, il y a des espèces d'ailleurs de moments là aussi de dérision. Mais la vérité, là. La vérité aussi, c'est que si ces films, qui sont tout de même de plus en plus noirs, de plus en plus terrifiants, avec des personnages... Alors, on a vu parfois dans les films policiers des années 30 ou des années 40, des gens qui étaient dangereux. Vous signaliez tout à l'heure Sidney Greenstreet dans Le Faucon Maltais. Mais enfin, c'est un ange.
Oui, c'est un ange à côté de cela.
Par rapport aux gens qu'on voit chez Tarantino, ou dans Seven ou autre. Si ces films n'avaient pas de temps en temps quelques moments, malgré tout, de dérision, ils seraient cauchemardesque et inregardable, absolument inregardable. Seven, c'est tout de même une descente aux enfers terrifiante.
Et il faut dire que Brad Pitt, Morgan Freeman, ouais. Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey, ils sont absolument magnifiques tous. Et alors, on parlait tout à l'heure du dernier film, enfin, parce que là, il faut s'arrêter un peu, c'est l'émergence du cinéaste qui est devenu Clint Eastwood. Après avoir bizarrement interprété un justicier, enfin un flic cinglé, un flic qui tue tout le monde sans attendre même les arrestations, et qui est devenu un réalisateur de films qui ont une dimension, alors là, extrêmement noire, sur... Et presque morale, presque mystique d'ailleurs, tous ces films qui peignent l'Amérique triste, l'Amérique décadente, l'Amérique violente, sont des films avec une certaine idée du mal, de la justice divine.
C'est un cinéaste éblouissant. C'est une carrière exceptionnelle. Il part comme second, il est acteur de second plan à l'Universal, il va se retrouver producteur, réalisateur, acteur, tenant les trois rênes en fait de la profession, et il va tourner exactement tout ce qu'il veut, c'est-à-dire aussi bien des films policiers que Bird ou des films comme ça, ou son dernier film. C'est une carrière fascinante. Et en effet, c'est un homme, je vous dis, je crois que tu es absolument vrai, c'est un homme très marqué par l'espèce de morale, de morale humaine. Et d'ailleurs, même dans les films qu'on lui a reprochés, on lui a reproché notamment Dirty Harry, le film de Siegel, c'est déjà un film, en fait, moral, où il est une espèce d'ange exterminateur d'une Amérique corrompue, symbolisée par cette espèce de type qui tire n'importe où et vole un car scolaire. On a vu dans le film d'après, tout de suite, qui était Magnum Force, à quel point Eastwood, loin d'être le fasciste que certains ont cru, au contraire dénonçait des méthodes réactionnaires de la police, c'est-à-dire de gens qui, eux, fonctionnaient en fait comme les escadrons de la mort, c'est-à-dire régler leurs comptes hors la loi. En fait, Harry, Dirty Harry, il est malgré tout, il est toujours l'incarnation de la loi. Il applique la loi. ses adversaires, non. Et c'est la même démarche qu'a Eastwood dans ses westerns, dans Impitoyable, dans José Wells, et dans ses films qui sont de plus en plus étonnants. Enfin, c'est une véritable épure. C'est une réflexion sur la société américaine et une réflexion sans parti pris et sans faire de cadeau à qui que ce soit, puisqu'il y a un élément que j'avoue, je n'avais pas remarqué ça, je vous l'avoue, je ne l'avais pas remarqué la première fois. Un de mes enfants m'a dit, si, mais je l'avais remarqué, bon, il aurait dû me le dire. C'est que dans Mystic River, le malheureux gosse qui est enlevé par deux crapules, et cet enlèvement va en fait perturber les trois vies, pas uniquement la vie de la malheureuse victime, mais les deux autres aussi, et aboutir à une succession de drames sanglants. En fait, l'une des deux personnes, on le voit à un moment, il met sa main et il a un anneau épiscopal. Et Clint Eastwood, d'ailleurs, ensuite j'ai lu une interview de lui, disait qu'il avait été très marqué parce qu'il s'était passé à Boston, où il y avait eu des problèmes avec certaines personnes du monde clérical. Et il est une espèce en fait de dénonciateur de ce qui ne va pas dans l'Amérique. En fait, c'est un personnage rooseveltien. Quel était le principe de l'Amérique de Roosevelt? Au lieu de cacher l'État, ce qui arrive souvent dans notre société française, c'était au contraire de dire, on va mettre le doigt là où ça fait mal, on va vous montrer là où il y a une blessure, et grâce à ça, on va pouvoir soigner le malade. On ne va pas le cacher, pas cacher la maladie, on va la soigner. Et je pense que Eastwood est exactement dans cette... Et la violence de son dernier film, L'Échange, The Changeling, c'est quelque chose de très frappant. Et quand on sait en plus que le film s'inspire d'une histoire vraie, c'est d'autant plus terrifiant.
Voilà, le cinéma noir, reflet de la réalité, évidemment, sous les présidences de George Bush, il y en a eu à dire. Alors, notre reporter Aurélie Charron, qui rentre de New York tout juste, a rencontré à New York Jerry Carlson, qui est professeur d'histoire du cinéma à l'université de la ville de New York. Et lui s'y retrouve très bien dans ce cinéma.
Avec notre époque des globalisations, nous avons la crise financière, la catastrophe de la guerre d'Irak. Nous avons aussi la catastrophe de M. Président Bush pour 8 ans. Et je pense que c'est un contexte exactement pour une forme de la recherche populaire sur la peur des choses cachées dans la société ou dans notre culture. C'est une tradition contre... la tradition dominante et positive de notre société d'Amérique, on peut voir la possibilité des voix dehors de centre des États-Unis. Pour moi, c'est très, très intéressant la façon encore les cinéastes comme Spike Lee ont utilisé la tradition noire pour un commentaire, et c'est un peu un jus des mots, sur l'histoire des Noirs américains. Parce que c'est une autre histoire, c'est notre histoire. Mais ce n'était pas pendant l'histoire de Hollywood, l'histoire, la version officielle. C'est un instrument pour une autre histoire, film noir. La ville noire, dès la perspective vraiment des Africains américains. C'est un développement du nouveau noir. On peut inclure tous les gens, tous les quartiers. Qui sont mes élèves? Ah, les filles et les fils des immigrants avec les perspectives des quartiers populaires. Et c'est très, très intéressant, une équipe des élèves avec une Coréenne, une Russe, une Dominicaine, avec les expériences des quartiers populaires, avec des questions sur l'avenir des États-Unis.
Cherry and with it be buried. The man without ear, the man without heart, the man with no spine, the man with no Sur France Inter.
Patrick Briand, à la base du film noir, il y a souvent un roman noir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bons écrivains bien adaptés au cinéma. Évidemment, on parlait de Dashiell Hammett tout à l'heure, et aussi de James Ellroy, parce que L.A. Confidential, ça a été formidable.
Ah, c'est un film magnifique. Et puis c'est beau, c'est des films qui, malgré leur longueur, puisqu'ils durent 2h20 ou 2h25 ou 2h30, sont passionnants par la multiplicité des personnages, des intrigues qui se croisent. Et on a de vrais personnages aujourd'hui, où souvent au cinéma, on a tout de même des espèces de personnages unidimensionnels. On voit dans L.A. Confidential, par exemple, des gens qui sont tout à fait différents. Des policiers qui, au départ, sont extrêmement violents, etc., qui comprennent la réalité. En fait, quand on lâche le film à la fin, les personnages ne sont pas les mêmes qu'au début. Et ça, je pense que c'est la force des très grands films.
Voilà, des très grands films, souvent, il leur faut de bons livres. Alors, bonsoir Aurélie Charron.
Bonsoir.
Tout juste débarquée de ce New York glacial dans lequel elle est allée se promener dans le Bronx, au péril de sa vie, relativement, avec un écrivain de romans noirs.
Avec S.J. Roseanne. Alors elle vient du Bronx. Elle le dit parce qu'à New York, il y a ceux qui disent « Je suis de Riverdale, je suis de Marble Hill ». On ne voit jamais trop où c'est, mais ça sonne plutôt bien. Et c'est en fait pour ne pas dire « Je viens du Bronx ». Parce que Bronx, on pense très vite gangs, danger, coin obscur. Mais j'ai rencontré S.J. Roseanne, une auteure new-yorkaise, donc du Bronx et fière de son Bronx noir. C'est le titre du recueil de nouvelles qu'elle a édité à New York. Et alors quand je lui ai dit « J'aimerais vous y accompagner dans le Bronx », elle a ri en me disant « Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Le Bronx, ce n'est pas deux stations de métro de Manhattan, c'est grand, c'est loin. » Alors j'ai répondu « Mais si, je sais, c'est pour ça que je veux y aller. » Et je me suis laissée guider par une vraie de vraie, une qui y est née et qui écrit sur son quartier. Alors je lui ai demandé comment on fait de la littérature noire sur le Bronx quand les faits divers, les journaux sont déjà malheureusement très complets. Et bien justement, on se balade et on repère l'incomplet, un coin de rue, une maison suspecte, une silhouette, et c'est le début du noir.
We are in Manhattan. Là, on est à Manhattan, dans le West Village, 14e rue, 7e avenue. On va monter dans le Bronx avec un train express. On va changer à la 96e rue. L'express part dans l'est du Bronx, mais on va prendre le train local pour aller à l'ouest du Bronx.
Look
qu'on est devant la carte.
Ça, c'est la ligne de métro rouge. J'ai essayé de penser à un endroit où on pouvait se promener tranquillement le soir, même si ça reste très noir par là où on va. Mais il y a des endroits où je n'irai pas. Deux femmes avec du matériel. Il n'y a rien de plus noir qu'un métro aérien. New York ne peut pas être plus noir que ça. Celui de New York a été construit il y a plus d'un siècle. C'est fait avec du vieux fer et de l'acier. Et on peut voir toutes ces magnifiques arches avec tous ces trous. La structure est assez impressionnante, mais on peut aussi voir tous les tuyaux. Rien n'est caché, il y a beaucoup d'ombre.
Quand on vient, on a une image du Bronx, une image violente, urbaine. Est-ce que c'est une image réaliste ?
Vous savez la façon dont on dit au fond de la forêt avec une sorcière, vous dites le Bronx. Et tout le monde pense gang, violence. Et si vous lisez Bronx noir, les histoires qui se passent dans le sud du Bronx surtout sont vraies. La violence des rues au plus bas niveau à laquelle tout le monde fait face est attisée par les crimes, entre guillemets, sans victimes des Blancs. Tout tourne autour de l'argent et des manipulations de l'immobilier. Personne ne fait de mal à personne, mais évidemment, certains en souffrent et tout au bout de la chaîne, ça devient de plus en plus âpre à chaque fois. Pour mon roman qui se passe dans le Bronx, j'ai écrit des scènes ici.
Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier ?
Mon détective privé a quelques rendez-vous avec un flic dans un bar irlandais, pas très loin, sur la 231e rue qui n'est plus la Herring. Ça l'a été pendant 70 ans, c'est fermé maintenant. Ça, c'est une grande rue commerçante qui était déjà là quand j'habitais là. Le bar Herring était là, à ce coin. Il n'y a pas de chaîne parce que ça ne vaut pas le coup pour elle de venir par là. Vous voyez le grill et la pizza, ils sont à vendre. Le noir, pour moi, ça va avec quelqu'un qui va vers quelque chose de plus noir que ce qu'il est et que ce qu'il sent. Et l'échec est important dans le noir. Donc, quand je vois des choses comme ces magasins à louer, je me dis, quelqu'un a pensé, je peux le faire. C'est pas cher, ça devrait marcher.
Et là, il y a une grille.
C'est le rêve de quelqu'un qui a échoué ici et n'a pas été remplacé immédiatement. Donc ça se voit, c'est triste et c'est noir. Ça, c'est un building classique du Bronx noir, quand le building s'efface derrière les lumières de Noël. Les décorations sont plus fortes que les lumières des fenêtres.
Commence à faire froid.
Le froid, c'est très noir.
Cold is noir, le froid, c'est noir.
The noir thing to do in the cold is, you know.
Oui, le froid, c'est très noir. Oui, parce que ça vous fait rentrer en vous-même. L'image du noir vient d'Hollywood. Ils sont tous à des coins de rue, en t-shirt, à fumer des cigarettes.
Shirts and slacks, smoking cigarettes.
Peut-être que c'est une différence entre le film noir et la littérature noire. Il fait plus froid dans la littérature noire.
Oui, je pense, parce que dans les films, vous pouvez utiliser la lumière, les ombres pour faire une ambiance noire. En littérature, on ne peut pas s'en tenir à la lumière et aux ombres. On a besoin de la température. Si vous voulez, on peut traverser le pont. Vous n'avez pas froid ?
Donc là, on traverse le pont pour aller du Bronx à Manhattan.
What a view, right?
Quelle vue, hein?
On peut voir les buildings qui se reflètent dans la rivière.
And the very quiet water.
Cette station de métro, c'est un bon endroit pour une histoire.
And the single figure walking down there.
Et juste une silhouette blanche, et c'est au bord de l'eau, dans le noir.
I never liked coming to
Je n'ai jamais aimé venir dans ces stations le soir.
Et voilà, merci Aurélie Charron de nous avoir fait goûter au noir new-yorkais du Bronx. Merci à vous, Patrick Brion, d'être venu nous parler avec tant de talent de tous ces films que nous aimons. Je rappelle que L'héritage du film noir est paru aux éditions de La Martinière et qu'on retrouve Patrick Brion aux commandes de notre cinéma de minuit favori sur France 3. Est-ce qu'il est avancé grâce à la suppression de la publicité ? Il n'est plus à minuit, il est à 11h et quelques.
Enfin là, il était au-delà de minuit, donc ah bon. Si
par bonheur, il arrive à minuit, ça serait très bien.
Merci beaucoup. Merci et au revoir.